J'ai reçu une longue question. Je n'y réponds pas directement ici. Celui qui me l'a envoyé, qui voudrait avoir des explications. C'est plus dans un dialogue que dans une réflexion pour tous. Ça montre la difficulté que nous avons de saisir un principe. Et quand on a saisi un principe, on ne peut pas être satisfait. Parce que la réalité, elle est le principe, mais elle est plus que le principe. Alors c'est pour ça qu'il y a toujours à bien distinguer l'interrogation, ce qu'est la chose, le qui est-il ? Ce qu'est la chose, le principe. Le principe est simple, il n'est pas composé. Alors que le pos, le comment, alors, voyez, pour nous, au point de vue surnaturel, regardez toujours le mystère de l'Annonciation, où les deux sont très bien distingués. La révélation à Marie qu'elle sera mère du Fils du Très-Haut, et comment cela peut-il se réaliser ? Alors, ça, transposons ça dans notre recherche métaphysique. La recherche métaphysique des principes de l'être en tant qu'être, substance, acte. Il n'y en a pas d'autres. Or, dans la réalité, l'être et le devenir sont toujours liés. Nous devenons notre propre personne. Notre nature qui donne les principes sont toujours là. Un petit enfant et un homme mûr et un vieillard, c'est toujours la même nature, mais son pos, son comment il vit, comment il réalise ce capital de vie qu'il a. L'enfant le réalise à sa manière d'enfant. Il passe des bras de sa mère au berceau. Quand il est plus grand, il arrive à se tenir debout. Alors, l'abstraction est différente pour la recherche du principe que pour la recherche du pos. Oui. Alors, c'est sûr que le point de vue substance et acte, dans le pos de la personne humaine, c'est pas uniquement la substance, c'est la substance et l'acte. L'acte d'être, l'acte d'exister, l'acte particulier, spécial. L'homme a une manière d'être, de vivre, toute différente d'un animal. L'animal, son pose, est commandé entièrement par sa nature. Et c'est pour ça que c'est très univoque. Les animaux qui construisent leur maison toujours de la même manière. L'homme, cet animal particulier qui construit sa maison d'une façon très différente depuis le début de l'humanité à la construction actuelle. On a la tentation de dire que ce n'est plus la même nature. Non, c'est la même nature. Mais son pose, sa manière d'exister est toute différente. Ça, c'est très intéressant de bien voir ça. La pensée de Heidegger confond le tiesti et le pos. La scolastique ne voit que le tiesti. C'est pour ça qu'elle ne regarde pas ce que c'est que la personne. Parce que la personne, ce n'est pas un principe, c'est une manière d'être. Et une manière d'être qui varie selon l'enfant, selon le vieillard. Alors, le principe est quelque chose de simple. Le pose n'est jamais simple. Alors, on étudie les différents éléments du pose. Ça, on peut le faire. Les différents éléments du pose personnel. Un acte humain est un acte personnel. À la différence de l'acte d'homme. Vous voyez, les scolastiques avaient bien distingué les deux. C'est pour ça qu'ils prennent toujours l'exemple du fricare barbam. Fricare barbam, on frotte sa barbe, même quand elle n'existe pas. Fricare barbam, un geste instinctif. Un geste instinctif, c'est un geste d'homme. Ce n'est pas un geste humain. La personne, ce sont des gestes humains. Et ce geste humain, il est complexe. Il n'est pas simple du tout. Donc, après avoir étudié principe, substance, acte, j'étudie la manière dont la substance et l'acte se réalisent dans l'homme. Et ils se réalisent au-delà de la nature, dans un point de vue personnel. C'est ce point de vue personnel que j'essaie d'étudier. Quels sont les différents éléments impliqué dans ce point de vue personnel. Premier élément, l'autonomie. Un geste d'homme qui est uniquement une imitation du geste d'un autre homme. Si c'est un geste d'imitation, c'est-à-dire entièrement relatif à l'autre, ce n'est pas un geste humain. Ce n'est pas un geste qui a la dignité d'être personnel. un enfant qui imite son père ou sa mère, c'est toujours très amusant à voir, une imitation matérielle. Alors on est très content de voir que le gosse arrive à imiter son père, mais cette imitation montre qu'il n'est pas encore une personne. L'éducation première de la personne se fait par mode d'imitation. Parce que, de fait, quand on est gosse, on vit avec d'autres plus âgés que lui dans la famille. Et donc, il est toujours enveloppé par des modèles qui le dépassent. Alors, si c'était de la pure imitation, et rien d'autre que l'imitation, ce ne serait pas un geste humain. Ce serait un geste en vue d'être humain, mais qui ne serait pas encore humain. Parce qu'il serait imitation de l'autre. Il n'y aurait pas cette note particulière d'un geste personnel qui doit se distinguer de tous les autres, qui est personnel. Alors, première dimension, l'autonomie. Pour montrer que s'il n'y a pas cette autonomie dans mes activités, si je suis entièrement commandé par le milieu dans lequel je suis et j'imite ceux qui, dans ce milieu dans lequel je vis, sont au-delà de moi, ils sont incapables de transformer ma vie en s'imposant comme des modèles. Et ça joue beaucoup dans l'éducation. Le point de vue du modèle joue beaucoup. Le point de vue de la cause exemplaire joue beaucoup. Et risque, quand cette cause exemplaire est trop forte, de faire que je ne sorte pas du troupeau. Et je retombe tout simplement dans l'activité commune. Et quand on demande à quelqu'un « Pourquoi faites-vous ça ?»« Ah, tout le monde le fait. » Alors, cette raison, tout le monde le fait, est-ce que c'est une raison humaine, personnelle, ou bien c'est tout simplement à cause du poids terrible de la quantité, où les premiers, les aînés, jouent un rôle de modèle. Mais ce n'est pas encore un geste qui a la dignité d'être personnel. C'est un geste en vue de, mais qui n'est pas encore personnel. Mais soi-même, nous faisons ça constamment comme différence. Donc, la première dimension d'un geste personnel, c'est d'être la dimension intellectuelle. C'est la dimension d'abord dans l'ordre de l'être. C'est que je subsiste. Et en raison de la subsistance que je porte en moi, qui peut faire de ce que Mon intelligence veut dire, veut commander à toutes mes activités l'autonomie. Et vous voyez, c'est pas un geste spécial, c'est une manière d'être. Une manière d'être. S'il n'y a pas ce point de vue de l'autonomie et que je suis uniquement celui qui imite l'autre, il n'y a pas d'autonomie. Ça arrive très rarement, mais ça peut arriver. Alors, à ce moment-là, on éduque un troupeau. On n'éduque pas des hommes. On éduque un troupeau de moutons, un troupeau de taureaux. Ça dépend quelle culture on a. C'est une distinction qui me semble très importante à souligner. Cette autonomie, elle doit être réfléchie. Le second élément pour la personne, c'est le point de vue de l'intelligence. Ah, ça, c'est aussi très complexe. C'est pas simple du tout. C'est l'intelligence pratique et l'intelligence spéculative. Alors, il y a du plus et du moins. Quand mon intelligence pratique est bien développée, elle rejoint le point de vue spéculatif. Je sais pourquoi j'agis. J'ai opté pour une finalité. J'agis dans ce sens-là, parce que mes activités humaines sont des activités qui dépassent le point de vue instinctif, le point de vue de purement imitation. Ce sont des gestes que je sais correspondent à ce que l'intelligence met dans mon activité. Elle met dans mon activité une intelligence plus ou moins consciente que toutes mes opérations humaines sont en vue d'une fin. Et il doit y avoir la connaissance de cette fin. Alors, vous voyez, là aussi, il y a du plus et du moins. Au fond, l'activité personnelle demande que je comprenne ce pourquoi je suis fait, en vue de quoi j'opère. Mais très peu de personnes agissent en fonction de leur finalité. Très peu de personnes. Mais beaucoup de personnes agissent avec leur intelligence, en comprenant qu'il est nécessaire de vivre et de rechercher la vérité. Et là, c'est très net. Cet élément de recherche de la vérité, il va de fait se réaliser de deux façons différentes. Où ce sera une recherche tout à fait personnelle de recherche de la vérité, ou si je n'y arrive pas, c'est une recherche personnelle encore, mais en tenant compte de l'opinion des autres. Quand je dis que la seconde dimension d'un acte humain, c'est le point de vue de l'intelligence, cela ne veut pas dire que nécessairement j'agis selon les exigences de la fin, de la vérité qui est en moi. Il peut très bien se faire que, pour certaines questions plus délicates, plus difficiles à voir clair, mon intelligence pratique s'épanouit en s'appuyant sur l'opinion des gens les plus intelligents. Je ne peux pas tout connaître, mais je peux toujours m'appuyer sur l'opinion des gens les plus intelligents, qui m'apparaissent comme les plus intelligents. Et ça, je crois que c'est très important. Un acte humain reste un acte humain, même si je n'ai pas personnellement l'évidence de ma finalité. Pour avoir l'évidence de ma finalité, il faut avoir découvert l'existence de Dieu, personnellement. Or, on peut poser des actes personnels, des actes qui montrent l'indépendance de la personne, en posant des actes de recherche de la vérité, mon intelligence n'est pas arrivée à une recherche parfaite de la vérité première, mais je m'appuie sur l'opinion de mes amis. Et dans des problèmes très délicats où je suis coincé, où je ne vois pas très clair, je peux poser un acte personnel en ayant fait cette petite enquête. Je vois que des gens très intelligents, beaucoup plus intelligents que moi, agissent de telle façon. Parce que leur activité est tournée vers Dieu. Alors, ils peuvent me servir de modèle. Je n'ai pas encore assez d'autonomie pour dire que mais je m'appuie sur l'opinion de mes amis. Je m'appuie sur petite enquête que je puis faire, que je suis incapable de faire de moi-même, mais je peux écouter des gens que j'estime, écouter le changement qu'ils vont me donner. Là, il y a une très grande différence, évidemment, dans des actes humains, des actes humains personnels, où j'ai moi-même travailler dans ce secteur et où j'ai mes convictions objectives que c'est vraiment là et c'est par là qu'on doit découvrir l'autonomie. Je l'accepte. Et j'accepte toujours dans le même but, c'est que mon activité soit vraie, c'est-à-dire conforme à la réalité. Mais je ne peux pas moi-même avoir fait l'enquête totale sur tous ces sujets. Alors, je m'appuie sur l'opinion ou la manière de voir de ceux dont j'ai la plus grande estime. Et m'appuyant sur ces autorités qui comprennent bien et qui sont... Je m'appuie sur eux et ils trouvent ça beaucoup mieux que je n'affiche pas mes convictions personnelles. J'essaie d'agir selon ce qui est le mieux, en m'appuyant sur l'opinion de gens importants, de gens qui ont travaillé beaucoup la question, mais que moi je n'ai pas travaillé beaucoup. Vous voyez, on peut bien étendre cette condition que pour que ce soit un acte, il faut que je puisse c'est, je crois, très important dans cette recherche de vérité de comprendre que je suis tout le temps en recherche de vérité. Un acte personnel réclame cette conviction intérieure que mon intelligence est faite pour découvrir le bien fondé de telle chose. Et que mon intelligence peut par elle-même arriver à découvrir l'existence de Dieu. Mais il faut du temps. Et je dois agir vite. Ça, là, il y a un problème de conscience que je ne peux pas objectivement séparer. Mais je peux, et c'est ce qui arrive la plupart du temps, m'appuyer sur l'opinion de personnes intelligentes. Et m'appuyer sur l'opinion de personnes très intelligentes me permet de voir beaucoup de choses que je ne pourrais pas voir pour moi-même. Et dans une grande foule, quelquefois je ne peux rien voir parce que j'ai comme un mur devant moi. Pour découvrir l'existence de Dieu par moi-même. Alors ça, c'est une recherche personnelle. On doit la maintenir. Il faut toujours qu'il y ait cette recherche personnelle. Mais très souvent, ma retraite personnelle qui touche la réalité, je dois accepter qu'elle ne sera efficace. Je crois que cette personne, cet élément de l'intelligence qui est très souple. Mais il n'y a pas d'acte humain sans cette recherche de vérité. Cette recherche de vérité personnelle, individuelle, cette recherche de vérité grâce à mes amis qui étendent le pouvoir de mon intelligence. Moi, je ne connais pas tout. Mais je vois si ce problème touche des choses importantes. J'ai le courage d'interroger les gens compétents. Et pour les vérités pratiques. Et si je n'interroge pas ces gens compétents en disant « c'est pas mon histoire, tant pis, ça n'a pas d'importance », je ne pose plus un acte humain. Je ne pose plus un acte personnel. J'agis comme un enfant en disant « c'est pas mon histoire ». Alors, c'est toujours l'histoire de l'homme de développer son intelligence pour rechercher la vérité. L'homme doit rechercher la vérité. Et s'il ne la recherche plus, s'il abdique en disant « oh, c'est beaucoup trop complexe », il ne pose plus d'acte humain. Il doit pouvoir, par un jeu de relations, pouvoir se renseigner sur la valeur, l'authenticité d'une recherche. Et pour ceux qui sont autour de lui, la recherche de la vérité serait peut-être ça qui serait le plus significatif. Tout acte personnel réclame une recherche de la vérité. Et l'abdication de la recherche de la vérité diminue le côté personnel. Il faut pouvoir vraiment saisir ce qu'il y a de vrai dans tel ou tel geste qu'on pose, dans telle ou telle manière d'accepter quelque chose. Est-ce que c'est bien le bien de l'homme, le bien de son intelligence? Mais voyez là, c'est très complexe. Il n'est pas seul dans cette recherche de vérité. Il a ses amis. Et plus la question est délicate, plus il aime d'avoir comme référence ou des hommes morts, mais que tout le monde accepte le génie, ou des hommes vivants qui sont dans ce domaine-là compétents. Ça me semble indispensable. Le point de vue personnel implique le point de vue de l'intelligence et de l'esprit. Pas la raison, hein, la raison raisonnante. Non, l'intelligence qui cherche si c'est acceptable, si c'est vrai. C'est, je crois, un des caractères les plus nettes à une action personnelle. Si on ne veut plus chercher cette vérité, ou parce que on est fatigué, parce que cette vérité est refusée par une quantité de gens, le fait d'accepter cette recherche comme vaine, comme inutile à chercher, rechercher cette recherche de vérité, est quelque chose de très important pour maintenir le caractère personnel de cette activité. Mais voyez, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Un acte est plus ou moins personnel. Un acte engage plus ou moins la personne. Pour que cet acte soit vraiment personnel, il faut qu'il y ait une recherche de vérité spéculative et pratique. Mais cette recherche de la vérité peut être une recherche qui vraiment ne peut s'accomplir que grâce à tel ou tel ami. Elle ne se réalise pas uniquement en voyant impliqué dedans. Alors, c'est vrai, on a des personnes qui ont une intelligence plus ou moins pénétrante dans l'ordre spéculatif. On a des actes, des personnes plus ou moins averties dans une connaissance pratique. Et donc, il y a comme facteur qu'on respecte ces deux manières. Et je crois qu'on doit faire le point soi-même dans tel domaine. J'ai fait l'enquête. Dans tel autre domaine, je n'ai pas fait l'enquête, mais c'est beaucoup moins important. C'est secondaire. Si j'étais engagé, je ferais une enquête. Oui. Toutes ces lois actuelles au point de vue biologique, la plupart du temps, nous sommes loin de la recherche de vérité de ces lois. Mais ces lois ont présenté avec leur autorité personnelle. Vous voyez, on voit bien dans cette recherche de la vérité combien cette recherche du caractère personnel de l'acte implique du plus et du moins. C'est normal, puisque on devient une personne On a posé, quand on était jeune, des actes que 10 ans après, on reprouve. Quand on a posé ces actes-là, ils étaient personnels. 10 ans après, on dit, ah, c'est idiot. J'avais pas la compétence. J'ai cru. Et il faut, je crois, saisir toute la souplesse du pos, du comment, et voir que dans le comment, on est en plein devenir et en pleine croissance. Je ne peux pas dire qu'au point de vue recherche de la vérité, cette recherche de la vérité que j'ai maintenant ne va pas changer. Non, cette recherche de la vérité que je cherche maintenant, elle a plus de valeur que celle que je recherchais il y a 10 ans. Et donc, les actes qui relèvent de cette recherche de la vérité actuelle sont plus personnels que ceux d'il y a 10 ans. Et ça, c'est normal, parce que c'est le comment. Alors que le principe est le même. Vous le saisissez ou ne le saisissez pas. C'est quelque chose de simple. Tandis que le POS, il est toujours engagé dans un point de vue qui implique quelque chose de très net, qui implique c'est, je crois, très important de comprendre que un acte reste humain, reste personnel, tant qu'il implique de nous une recherche de vérité et une découverte de la vérité, de ce qui nous semble être vrai. Mais comprenons bien qu'au point de vue pratique, cette recherche de la vérité, elle est toujours double. Surtout dans le domaine pratique. C'est mon intelligence qui s'actue de plus en plus, qui devient de plus en plus pénétrante. C'est mon intelligence qui saisit certaines choses que d'autres ne voient pas. C'est pour ça que je ne peux pas les juger. Pour eux, c'est vrai. Alors que c'est pas vrai du tout. Mais pour eux, c'est vrai. Et par le fait même qu'ils ont cru que c'était vrai, leur acte était un acte humain. Il y a un élément subjectif qui intervient pour faire que ce soit un acte humain, pour que ce soit un acte qui vraiment a cette valeur particulière d'orienter ma vie. Si j'ai découvert quelques années après, grâce au travail que j'ai fait, grâce aux rencontres que j'ai pu faire, je jugerai autrement la vérité de cette opinion. Et il peut se faire en troisième position. Je suis incapable de tout connaître. La science s'étend sur tout. Je suis incapable de pouvoir juger. C'est pas parce que je m'estime incapable de pouvoir juger que cet acte-là ne sera plus humain. Et ça, c'est très important. si je m'appuie sur quelqu'un que je connais, qui lui connaît ses recherches scientifiques, me les expose, me les montre, mon acte deviendra de plus en plus personnel. Parce que la recherche de la vérité sera de plus en plus forte. La recherche de la vérité est très importante pour qualifier un acte personnel. Et le plus ou moins de cette recherche de la vérité donne à mon acte personnel une valeur plus ou moins grande, plus ou moins personnelle. Elle peut très bien faire que je m'appuie sur lui dans ce domaine parce qu'il voit mieux que moi, parce qu'il a été plus formé que moi. Alors, je le suis en acceptant que ce soit lui qui m'aide à affirmer. Et je peux le dire ou ne pas le dire. Je peux très bien le dire dans la discussion. Je ne suis pas très fort dans ce domaine-là. Mais je connais telle autorité. Et ce qu'il me dit là-dessus, ça me semble intéressant. Ou au contraire, je peux dire, il a son jugement, qui est un jugement de pure efficacité, sans aucune recherche de vérité. Alors, puisque je suis obligé de dire oui ou non, si je suis d'accord ou pas d'accord, or, je n'ai pas les éléments suffisants pour pouvoir dire ça, mais puisque je dois le dire, je vais me référer à son autorité. Parce que c'est vraiment cela qui est le plus raisonnable. C'est vraiment cela qui me met le plus proche de la vérité. Vous voyez, ça exige une très grande intelligence, ça, de ne pas s'enferrer dans son opinion propre, unique, d'accepter l'opinion d'autres, mais en faisant toujours et en essayant de comprendre, est-ce que cette recherche de la vérité chez lui est une recherche de la vérité par rapport à la finalité de l'homme, quand il s'agit de choses tout à fait pratiques, la finalité de l'homme est engagée. Le très grand danger aujourd'hui, c'est de dire, cette activité est légitime parce qu'elle me permet de mieux connaître les activités de l'homme. Il faut toujours se rappeler qu'une recherche de vérité engage tout l'homme. Pas seulement le spécialiste. Et ça, c'est le grand dilemme d'aujourd'hui. Un spécialiste aura toujours la tentation d'aller le plus loin possible dans l'expérience pour mieux comprendre sa spécialité. Mais si cette spécialité est mauvaise pour l'homme, et conduit l'homme dans une vision qui n'est pas juste, la finalité humaine, qui est la même pour tous, vient dire « Je n'ai pas le droit de poursuivre ma recherche de vérité dans ce domaine-là. » Toute recherche de vérité scientifique est pour l'homme, pour le bien de l'homme, quand, de fait, elle est contre le bien de l'homme, on n'a pas le droit de s'y donner. Parce que la science n'est pas plus que l'homme. La science est pour l'homme, pour le développement de l'homme, mais l'homme n'est pas pour le développement de la science.